Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Bonsoir. Les carnets du soir vous proposent en première partie « Séjour d'un pèlerin en France ». Il s'agit de lieux de pèlerinage dans la ville de Paris et je me suis rendu au Mont-Saint-Michel. Nous allons ensuite redescendre, et là, il est quand même autour d'une heure, de 13 heures. Donc, c'est le moment du repas du midi, et nous allons prendre ce repas avec les moines. Il y a aussi quelques jeunes adultes qui sont là. Je retrouve Bernard, toujours le même monsieur. Et je prends le temps de lui dire « Bernard, j'ai prié pour votre fils et pour vous. » Il a été touché parce qu'hier soir, il m'a dit qu'il venait de perdre son fils de 35 ans, il y a 2 mois. Alors c'est sûr que ça l'a touché et j'ai demandé « Quel est le prénom de votre fils ?» Il m'a dit « Éric ». Et là, il s'est mis à parler et il nous a dit « J'ai été étonné. Lors des obsèques, l'église était pleine. Alors je lui ai dit ceci, c'est qu'il était aimé, votre fils. On aimait votre fils. Il dit, je crois. C'est ça, la rencontre des personnes. Donc, ce Bernard, je vais le voir la veille, je le vois le matin au Laude, je le vois au petit déjeuner, je le vois lors de la messe, et il écoute. Et je vois bien, je comprends bien, parce que la veille, il a joué un peu avec toutes ces questions, même s'il les a encore en tête, ces questions. Mais je me dis, le Seigneur le travaille, le Seigneur l'habite, et il entend. C'est lui qui avait parlé de l'écoute comme étant essentiel au médium d'une radio. La foi naît de ce qu'on entend. Alors, il a compris ça tout de suite, quand je lui ai dit que j'étais directeur de radio. Alors, il a compris que, il a même dit, c'est un moyen exceptionnel qui vous est donné pour l'annonce, pour annoncer l'Évangile. Alors, je revois souvent Bernard. Alors, c'est l'heure du repas du midi. Les choses prennent quand même un certain temps. La finale, les moines, à la fin aussi, saluent les gens. Ils prennent le temps de saluer les personnes. Les gens viennent leur confier sûrement des intentions, les moines et les moniales. Alors, et certains les connaissent, ils viennent et reviennent. Donc, c'est tout cela après la messe, et je pense qu'ils prennent le temps de rencontrer les personnes, de les écouter et d'avoir un certain partage. Alors, ça prend un certain temps avant que le repas soit préparé, en tout cas arrive sur les tables, dans le réfectoire, et il y a les prières et des chants qui sont enregistrés, et on entend pendant tout le temps du repas ces chants spirituels qui accompagnent le repas des moines et des jeunes adultes avec nous qui sont là. Ce sont des choses très simples qui se passent, c'est le temps du repas, et ensuite c'est la vaisselle. Alors là, c'est vraiment une corvée. Tout le monde s'attelle, d'ailleurs le prieur, à la fin du repas, fait quelques annonces et donne les consignes. dans le sens, bon, à tel endroit on fait telle chose, à tel autre endroit on fait autre chose. Et bon, la vaisselle doit être placée ici et là, et bon, tous les éléments nous sont donnés pour comprendre. Donc c'est le temps de la vaisselle. Moi j'aime bien faire la vaisselle, j'ai toujours aimé ça. Je ne sais pas si je serais plongeur, mais j'aime faire la vaisselle parce que ça me détend d'une part, c'est simple, et je me dis, c'est une activité où on lave, on nettoie. Ce n'est pas que c'est sale, mais il faut nettoyer les assiettes, les ustensiles, les verres, etc. Donc c'est une activité où l'élément que j'ai dans les mains, avec de l'eau, eh bien, change d'allure. Alors, ça me plaît, ça. Ça me permet de réfléchir, ça me permet de penser. Donc, c'est pas moi qui ai les deux mains dans l'eau, mais j'ai au moins un linge à vaisselle et j'essuie. Avec moi, Bernard, encore, et mon collègue qui est avec moi. Donc, c'est quand même long la vaisselle, parce que nous étions quelques-uns, et bon, vous savez, quand on lave tous les verres, toutes les assiettes, après ça, il y avait un potage, donc il y avait d'autres plats, ensuite les ustensiles, les grands ustensiles, c'est long, ça a été long, cet épisode de la vaisselle. Et ça se fait de manière simple, ça ne parle pas. On travaille en silence. Les moines travaillent en silence. Donc, ça a été cette activité. Et après, il est quand même déjà presque 15 heures. Alors là, j'ai dit à mon collègue, moi, j'ai besoin de m'étendre. J'ai mal au dos et j'ai besoin de retrouver ma cellule et de retrouver ma planche pour m'étendre sur ma paillasse, sur mon lit, et me reposer un peu. C'est ce que j'ai fait. Après, nous avions été la veille invités par le recteur du sanctuaire. Je vous ai dit qu'il y avait un sanctuaire au Mont-Saint-Michel. Il y a l'abbaye, l'église abbatiale, et plus bas, il y a l'église paroissiale, on pourrait dire ça comme ça. Donc, c'est un sanctuaire, et nous avons été dans ce sanctuaire, mais avant, nous avons pris le temps de prier le chapelet. En contrebas des tours qui abritent les moines, ils ont une petite bande de terrain qu'ils appellent leur jardin. C'est assez étroit, donc nous sommes installés là pour prier le chapelet. Au tout début, j'étais ravi, parce que c'était aussi la visite des oiseaux, et des oiseaux de toutes sortes. J'ai vu des oiseaux dont je n'avais jamais vu l'existence. Alors il y a beaucoup d'oiseaux autour du Mont-Saint-Michel, mais à un moment donné, il y a d'autres sortes d'oiseaux qui sont arrivés, qui étaient vraiment pas mal moins intéressants. C'était les avions. Alors, des avions ou d'autres formes d'appareils qui permettent de voler avec des moteurs, d'une certaine manière. Et là, le Mont-Saint-Michel a été envahi par le bruit, le vacarme. Moi, j'appelle ça du vacarme. Et c'était très désagréable d'entendre dans un lieu comme celui-là, dans un lieu de paix, de beauté, d'entendre le vacarme de tous ces avions qui ne cessaient de circuler autour du mont, probablement des touristes aussi qui ont payé un certain prix et qui ont loué un petit avion qui leur fait faire un tour en hauteur pour voir le Mont-Saint-Michel. Bon, ça peut être agréable pour eux, mais pour moi, ça a été fort désagréable parce que on perd la paix. Il n'y avait plus d'oiseaux là. Non, les oiseaux s'en vont. Les oiseaux s'en vont pour mourir. Ils ne se cachent pas, ils s'en vont. Donc, ça a été le chapelet, la prière du chapelet, et ensuite là, nous sommes descendus au sanctuaire, nous sommes entrés dans le sanctuaire. Il y a là, semble-t-il, un mobilier qui appartenait aux moines qui vivaient ici, bon, au XIXe siècle. J'ai l'impression qu'on a déménagé ce mobilier. Il semblerait que le maître-autel de ce sanctuaire provienne de cette abbaye. Alors c'est plus petit, là, mais c'est ancien. Les statues datent du XIVe-XVe siècle. On avait une très belle statue de Sainte-Anne et de Marie. Nous sentions vraiment que c'était vieux, c'était ancien. Et c'est dédié à Saint-Pierre. On a vu un grand tableau de l'apôtre Pierre avec Jésus. Probablement Pierre qui marche sur les eaux ou, après la pêche miraculeuse, Pierre, Simon Pierre, qui s'approche de Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, car je suis indigne, je suis impur, éloigne-toi de moi. » Et Jésus va lui répondre « Ne crains pas, ne crains pas, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Je n'ai pas peur de toi, tu ne me fais pas peur, je n'ai pas peur de toi, donc ne crains pas. » Alors, c'est ce que nous avons vu. Il y avait des vitraux également qui rappelaient d'autres scènes de l'Évangile. Et ensuite, nous sommes allés sonner. Il y avait 3 sonnettes et on ne savait pas laquelle devait être activée pour rencontrer le recteur. Donc, mon collègue est allé demander tout près. Il y avait là une librairie et la personne pouvait certainement nous donner des informations. C'est ce qui s'est passé. Et là, j'ai vu sortir de cet endroit le recteur qui était justement en entrevue radiophonique avec une radio française, RCF, une radio de France. Et il nous a salués rapidement puisqu'il est venu à l'extérieur, donc il a dû dire à l'autre personne « Attendez-moi, je reviens » et il nous a salués de cette façon. Ce fut très bref. Ensuite, nous sommes remontés, donc des marches, des marches, des marches. Nous avons repris le sentier du jardin. Les gens nous regardent parce que nous avons une clé spéciale. C'est sûr que le circuit que nous empruntons n'est pas le circuit des touristes ou des pèlerins. Nous avons un privilège, il faut l'appeler comme ça, on a le privilège d'avoir une clé qui nous fait entrer directement dans les appartements des moines. Alors, autant lorsque nous sortons, autant lorsque nous rentrons, bien, les gens nous regardent et ils se posent la question, où vont-ils et comment se fait-il qu'ils aient cette clé qui leur permet d'entrer dans la forteresse. Après, c'est le temps d'une collation. Nous échangeons avec le frère hôtelier et nous avons quelques indications pour la prière des vêpres qui ne se fait pas dans l'église abbatiale, qui se fait dans un oratoire ailleurs et nous aurons le repas du soir. Et ensuite, c'est le grand silence. Donc, nous y sommes habitués.
Les carnets du soir se poursuivent en ouvrant un autre volet, de la rose bleue. Cette fois-ci, un monologue, un ami de Saul de Tarse, avec Jacques Robitaille, sous la direction de Jacques Leblanc.
La rose bleue. 60 ans après Jésus-Christ. 13 pétales. Texte, Denis Veilleux. Aujourd'hui, un ami de Saul de Tarse. Narration, Jack Robitaille.
Il en aura laissé quelques-uns en chemin, ce fameux Saul. Je me rappelle quand je l'ai vu pour la première fois. Il venait d'arriver à Jérusalem pour y étudier. Pas très grand, le visage un peu sévère pour son âge, environ 16 ans, et une chevelure aux boucles fines. Mais il fallait voir ses bras et ses jambes, comme ceux d'un lion. Fils d'un marchand de tentes, il en avait lui-même fabriqué. Voilà l'origine de sa stature d'homme qui nous impressionnait. À cet âge, tous fringants, nous nous chamaillons toujours un peu après les leçons des grands rabbis. J'ai été témoin d'une des premières raclées qu'il a infligée à deux de mes amis d'enfance qui s'étaient donné le mot pour enquiquiner le nouveau venu de Tarse. Ils n'ont pas eu à poursuivre longtemps. D'une jambe et de deux mains, il leur a fait faire le tour d'un mur à la vitesse de l'éclair. Nous étions tous ébahis devant une telle force physique. Il fallait l'entendre se débattre aussi avec les rabbis qui ne comprenaient pas vraiment comment ce juif d'ailleurs les dépassait parfois dans ses réponses. On assistait alors à des scènes fameuses où questions et réponses fusaient de tous côtés. On ne se conduit pas comme cela d'ordinaire devant des maîtres d'expérience et plus âgés. Le jeune Saul l'a appris assez vite. On l'a chassé de cette synagogue et on l'a confié aux bons enseignements du plus fameux des maîtres, le rabbi Gamaliel. Progressivement, Saul s'est mis à changer. Il parlait moins, souriait davantage, et quand on tentait de se mesurer avec lui, il se laissait d'abord vaincre en feignant de perdre et à la toute fin renversait sa victime. Il était devenu drôle tout en conservant son énergie et sa force d'esprit. Bientôt, le rabbi Gamaliel s'est attaché à ce juif qui possédait si jeune une capacité d'esprit unique, et en retour, Saul s'est mis à l'aimer comme un père. Et n'oubliez pas que nous avions à cette époque autour de 16, 17, 18 ans. Depuis son expulsion, nous nous voyons forcément moins, lui et moi, mais nos contacts étaient restés excellents. Un jour, il m'a invité à l'accompagner dans sa famille. Il n'y était jamais retourné depuis son départ pour les études. Ce voyage, je ne l'ai jamais oublié, tant Saul n'a cessé de susciter mon admiration. Il connaissait non seulement les routes et les détours, mais il parlait plusieurs langues. Une tête, je vous dis. Nous avons passé à un cheveu, le sien ou le mien, je ne sais, de nous faire écorcher pour toujours par des brigands. Heureusement, tout en donnant l'impression de ne rien craindre, les dangers sur ces routes étant bien connus, Saul était aux aguets. Ce que nous redoutions sans nous l'avouer mutuellement a fini par arriver. Nous avons d'abord été alertés par des bruits, puis des cris, et le temps de le dire, des hommes au visage masqué nous ont attaqués de tous bords, tous côtés. J'ai cru que Saul allait charger de toutes ses forces contre eux, mais il ne l'a pas fait. Il avait compris qui étaient nos agresseurs. C'étaient des vagabonds qui venaient de la région de Tarse. Saul avait tout de suite reconnu les accents de leur voix et la manière dont ils avaient crié quelques mots. Il les a donc interpellés sur le champ. « Vous êtes de Tarse, vous ?» Ils sont devenus comme figés. L'un d'eux, leur chef sans doute, a répondu « Comment sais-tu que nous sommes de cette région ?» Saul s'est expliqué, sans violence, mais de façon énergique. « Je suis moi-même de Tarse, et je reconnais vos manières de parler et vos cris. Je suis de votre race. » Il a ajouté, « Que vont dire nos gens lorsqu'ils apprendront que vous avez attaqué des frères ?» Les brigands ont été complètement abasourdis d'entendre ces paroles et ont baissé les armes. Ils sont restés muets, ne lâchant pas Saul de vue. Moi, je tremblais de peur. Quand Saul a fait quelques pas, nos assaillants ont reculé. C'est alors que mon compagnon de route leur a fait cette proposition. « Accompagnez-nous jusqu'à Tarse. Vous serez notre escorte et notre protection. » Ce qu'ils ont fait sans hésiter. En aucun moment, cependant, ils n'ont dévoilé leur visage. Je n'oublierai jamais cet épisode et la force de caractère avec laquelle Saul a maîtrisé tout ce monde. De toute évidence, il avait déjà un étonnant pouvoir de conviction. J'ai ensuite rencontré la famille de mon ami. Son père était gravement malade et il est mort au cours de ce séjour. Conséquemment, il a donc été sérieusement question que Saul ne retourne pas à Jérusalem et qu'il prenne en main le commerce de son père. Toute sa famille en dépendait. Pendant des jours, Saul a été torturé à la pensée de devoir abandonner ses études. La solution est venue grâce à l'intervention d'un de ses oncles. Un de ses fils assurait la gérance des affaires au nom de Saul et ferait le voyage régulièrement à Jérusalem pour lui rendre des comptes, sans oublier qu'il aurait ainsi l'occasion de se présenter au temple au nom de tous lors de la Pâque. C'était faire là d'une pierre deux coups. Au grand soulagement de Saul, la proposition a été acceptée par le reste de la famille, si bien que ce dernier a décidé de ne pas tarder un jour de plus et de rentrer à Jérusalem pour que le vent ne tourne de bord et que les décisions se mélangent comme des ficelles. Avec les années, j'ai continué à voir Saul souvent. Moi, je me suis marié et je demeurais non loin du temple où Saul, toujours célibataire, assistait aux sacrifices. Il ne manquait aucune des grandes fêtes et certains commençaient à le nommer rabbi. Il ne dédaignait pas cette appellation, quoiqu'il n'osât se l'attribuer par déférence au grand Gamaliel qu'il fréquentait assidûment. Le rabbi Gamaliel était un sage, comme on n'en voit plus beaucoup de nos jours. Ici, les sages n'osent plus parler. Pourquoi? Parce que les épées sont collées à leur langue, et s'ils osent, on la leur coupera. Alors, il faut du courage pour parler, tout en sachant qu'un mot pourrait vous rendre muet. Le rabbi Gamaliel parlait. Il avait la droiture au cœur, et ses pensées n'étaient pas tortueuses. C'est pourquoi lui ne s'était pas braqué au message de celui qui baptisait les foules au Jourdain et qui dénonçait les chefs religieux de Jérusalem. Sage, il appréciait les redressements. Prudent, il conservait la patience alliée au temps. Plusieurs fois, il a protégé Saul, porté naturellement à des élans et des paroles capables de trancher sans épée les propos mensongers des autorités civiles et religieuses. Mais le rabbi Gamaliel disait qu'il valait mieux retenir sa langue que de la donner en pâture de manière trop facile. Mourir pour une parole dite en son temps valait plus que 10 000 mots perdus à l'instant. Saul n'était toujours pas marié. Je ne sais trop comment les choses sont arrivées, mais un jour, à la sortie du temple, il m'a appris qu'il pourfendait une nouvelle secte. Je savais qu'il n'appréciait pas beaucoup les Sadducéens et encore moins les Zélotes, mais là, il était remonté comme jamais. Après avoir offert un sacrifice, il s'était juré d'exterminer jusqu'au dernier les impies qui blasphémaient en affirmant qu'un homme était Dieu, qu'il avait été crucifié dans la ville et qu'on le disait vivant. Absurdité dont Saul ne pouvait maîtriser les effets sur sa colère. Il avait tout en main pour les exterminer, ces corbeaux. En effet, des lettres des plus hautes autorités lui accordaient pleine latitude pour les dénicher et les mettre au feu de la géhenne. C'est ainsi que Saul m'a annoncé qu'il partait le lendemain pour Damas, où il devait faire rien de moins qu'un carnage. Je l'ai senti si excité, si hors de lui, que je lui ai demandé s'il avait consulté le rabbi Gamaliel. Il est parti sans me répondre. Moi, je n'étais pas bien dans cette histoire de poursuite. Je me disais que les choses parfois tournent bien mieux que tout ce que nous déployons pour les régler à notre façon. Quelques semaines plus tard, j'ai appris avec stupéfaction qu'il avait fait une chute à cheval, qu'on le disait aveugle et devenu fou. Qu'il soit estropié à la suite d'un accident, qu'il ait perdu la vue, je pouvais comprendre. Mais qu'il soit fou, j'étais incrédule. Pourtant, les preuves sont tombées. Saul affirmait à qui voulait l'entendre avoir vu une lumière, avoir entendu une voix. Bref, il parlait dorénavant comme ceux qu'il voulait détruire. Dépassé par cette nouvelle, je me suis rendu auprès du rabbi Gamaliel pour en savoir davantage. Celui-ci m'a reçu avec une anxiété qui ne lui était pas coutumière. Je lui ai raconté mon histoire, qu'il savait déjà. Il a eu pour toute parole. Nous ne dirons rien sans l'avoir entendu. C'est notre frère. Hein, quelle sagesse! J'en aurais des choses à vous raconter encore sur lui, mais ce serait trop long. Et pour résumer, mon ami Saul a changé et s'est fait appeler Paul. Une sorte de rite d'initiation que son nouveau rabbi, Jésus, le fameux mort-vivant, avait inventé pour ses nouveaux adeptes. Nos contacts se sont poursuivis, mais se sont espacés. Après bien des années à répandre partout cette doctrine du Messie crucifié, ça sonne drôle dans mes oreilles, Saul est venu à Jérusalem rencontrer ce qu'on appelait les colonnes de ce nouvel enseignement. Il semblait heureux. Il m'a fait part de ses quelques difficultés, deux ou trois naufrages, entre autres, des flagellations, et le fou rire des Athéniens venus l'entendre. Je vous le dis, il était heureux. Quand il m'a raconté sa chute en se rendant à Damas, dont on parlait encore et encore, il a affirmé qu'il n'avait pas été renversé par son cheval, mais plutôt par une force venue d'en haut. J'en eus la chair de poule. Je crois qu'à présent, il est à Rome. Après force tracas et poursuites, il a demandé à être jugé par l'empereur, et nul autre. Il avait la citoyenneté romaine, vous savez. Heureusement, là-bas, il s'est installé une certaine accalmie après les emprisonnements et les mises à mort des débuts. Saul s'en tirera probablement avec une peine de liberté surveillée. Le rabbi Gamaliel est maintenant vieux. Il parle peu, mais quand il se souvient de Saul, il pleure. Non pas de tristesse, mais il est ému. On colporte que dans sa recherche de vérité, il rencontre un certain Nicodème, le plus souvent la nuit. Ce dernier lui aurait présenté un proche du prétendu Messie. Il s'appelle Nathanaël. Il est originaire de Cana en Galilée et il est très fort dans l'étude des rouleaux. Non, c'est ce qu'on dit.
Vous venez d'entendre Un ami de Saul de Tarse, la 8e d'une série de 13 émissions intitulée La Rose Bleue, 60 ans après Jésus-Christ, 13 pétales, texte et musique, Denis Veilleux, narration, Jack Robitaille, à la technique, Yannick Caron, réalisation, Jacques Leblanc.